Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière.
Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui qui est un dans le viseur un peu particulier, enfin c'est un dans le viseur normal mais c'est un dans le viseur avec un réserviste, alors ce qu'on n'a jamais fait pour l'instant, c'est un défaut, c'est un tort, ça tient aussi à la manière dont on trouve les intervenants, mais jusqu'à présent on n'a probablement pas assez parlé de la réserve opérationnelle et des réservistes. Et aujourd'hui, c'est donc un témoignage d'un réserviste qui non seulement parle de sa vie de réserviste, mais aussi d'une opération extérieure, c'est-à-dire c'est un réserviste qui a été projeté en OPEX, ce qui n'est pas hyper banal, enfin ce qui arrive, mais ce qui n'est pas non plus extrêmement courant. Donc ça permet de parler de la réserve opérationnelle, notamment à l'occasion des Journées nationales des réservistes, qui sont encore en ce moment, donc c'était du 9 octobre au 9 novembre. Il doit y avoir encore un certain nombre d'événements, notamment c'est un peu sur tout le territoire français, donc ça se trouve très facilement sur Internet, disons les divers événements qui pourraient y avoir autour de chez vous, si la réserve vous intéresse, puisque bon, sans doute que le collimateur ne se penche pas assez dessus, on va essayer de corriger ça dans les mois qui viennent, mais c'est évidemment un pan tout à fait intéressant et tout à fait important des forces armées françaises, notamment parce qu'elles sont mobilisées, elles sont convoquées, disons pour penser l'avenir des forces armées, et notamment dans le cas de l'armée de terre, on peut dire que c'est pensé pour préparer le retour à la haute intensité. Évidemment, avec ce témoignage, on n'en est pas là, c'est il y a bien plus longtemps, mais ça permet peut-être de dire quelque chose de cette partie très significative et très importante, symboliquement et aussi numériquement, des armées françaises, que sont les réservistes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode donc dans le viseur, consacré à des récits ou à des souvenirs d'opérations, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Laurent, donc commandant réserviste. Donc bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois que vous êtes ici pour nous raconter une histoire, un souvenir qui remonte un peu, qui remonte à déjà une décennie, à 2010. Alors, peut-être dites-nous, donc, puisque je l'ai précisé, vous êtes réserviste, vous étiez à l'époque réserviste dans quel régiment, dans quelle unité ?
Donc à l'époque, j'étais réserviste à l'état-major de la 1ère brigade mécanisée, qui était basée à Châlons-en-Champagne.
Et juste parce que ça nous permet au passage d'aborder un sujet dont on traite en fait trop peu souvent dans le podcast, qui est celui de la réserve, ça ressemblait à quoi ? C'est-à-dire ça vous prenait combien de temps au quotidien ? C'est-à-dire par exemple par année, combien de temps vous étiez mobilisé pour vous entraîner, pour faire partie quoi de l'unité à part entière ?
En moyenne, on était sur une trentaine de jours. Ce sont des exercices qui sont planifiés d'une année sur l'autre, des activités plutôt qui sont planifiées d'une année sur l'autre. Et on est sur un volume roulant d'une trentaine de jours.
Donc vous savez déjà, comme ça vous pouvez prévenir votre employeur, vous pouvez vous organiser.
Voilà, et surtout que les activités s'inscrivent souvent dans des cycles d'activités, de certification ou de préparation à d'éventuelles projections. Et donc tout est anticipé, planifié, généralement d'une année sur l'autre, et voilà, effectivement, d'un millésime à l'autre, si on peut dire ainsi, les principaux exercices sont planifiés, oui.
Mais alors, du coup, vous avez eu une expérience qui n'est pas celle de tous les réservistes, qui est assez rare même, je pense qu'on peut le dire, c'est d'avoir fait partie d'une OPEX, d'avoir été déployé à l'étranger. Alors, racontez-nous peut-être comment c'est venu, pourquoi c'est venu, et où est-ce que c'était ?
Alors, comment c'est venu ? En fait, c'est le principe du réserviste qui joue, entre guillemets, souvent sur le banc de touche et qui voit ses camarades d'active jouer le match en vrai. Je m'étais dit toujours, étant réserviste, ça serait un petit peu l'acmé, je sais pas, mais peut-être un événement ou une chose à faire au moins dans sa vie, mais enfin dans sa carrière de réserviste. J'ai des camarades qui ont eu l'opportunité de pouvoir partir plus, qui sont partis plus souvent. Bon, en l'occurrence, me concernant, avec conciliant ma vie professionnelle et cette vie de réserviste, voilà, c'était un événement que j'ai souhaité réaliser, en accord évidemment avec mon employeur, en ayant, et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des exercices qui sont anticipés d'une année sur l'autre, donc ça m'a permis effectivement de préparer cette absence d'environ 4 mois.
Au sein de la brigade, il y a un appel d'offres, on demande aux réservistes qui veut partir.
C'était un peu ça, c'est toujours une volonté du commandement. Hein. À l'époque, le général qui commandait la première brigade mécanisée a souhaité que certains réservistes soient projetés avec l'état-major, a fait, entre guillemets, un appel d'offres, a demandé s'il y avait des volontaires. Et en regard des volontaires, des postes qui étaient à pourvoir, j'ai eu l'opportunité de pouvoir cocher l'ensemble des cases ou avoir un alignement de planète avec les postes que j'occupais au sein de l'état-major, de pouvoir partir effectivement avec au sein du mandat 24 de l'opération Licorne en 2010, oui.
Donc l'opération Licorne, rappelons que c'est en Côte d'Ivoire. Alors, peut-être simplement, comment dire, vous arrivez là-bas après les autres, en même temps que les autres
Alors, du moment, c'est le principe des réservistes, et ça a été surtout le mien, c'est qu'une fois qu'on a le treillis, on n'est ni plus ni moins militaire que les autres, donc on fait les mêmes choses que les autres, donc on s'entraîne pareil, on a les mêmes contraintes et impératifs liés au grade, à la fonction, au poste, à tout ce que l'on veut, et donc je me suis entraîné, j'ai préparé cette projection avec mes camarades d'active, et je suis parti en même temps qu'eux.
Donc il y a une sorte de montée en puissance, et à la fin, il y a le départ. Quoi.
Exactement, et on part tous ensemble. On est, effectivement, ces grosses guillemets de dire on est réserviste, certes, mais une fois qu'on est mélangé, un treillis au milieu des treillis, ça se voit plus, et voilà. Et ce qui était rigolo, où là je me suis fait, un point d'honneur, ça a été effectivement, puisque l'état-major partait en Côte d'Ivoire, mais avec d'autres unités, constituant la force Licorne, c'était de ne jamais mettre en avant le fait que je sois réserviste, à tel point que souvent, quand les gens l'apprenaient, ils disaient « Ah ouais, mais t'es réserviste ?» Oui, et alors ?» Et non, mais c'est juste, pour gérer, je m'étais fait aussi un point d'honneur d'avoir acquis le niveau technique du poste pour qu'il n'y ait pas, de sous-entendus ou de malentendus par rapport à ça. Donc, à la fois, l'institution permet de noyer, entre guillemets, le réserviste avec ses camarades d'active au travers de l'uniforme, certes, mais moi aussi, je voulais que mes compétences acquises au gré des différents exercices et des certifications des années précédentes me permettent d'avoir la capacité à avoir ce poste. Et je pense que si aussi le général a accepté que ma candidature soit retenue, c'est grâce et à cause de ça.
D'accord, alors une fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire, donc en 2010, alors 2010, on va peut-être préciser, c'est pas le moment le plus brûlant de l'opération Licorne, c'est pas le moment où il y avait le plus d'affrontements, où c'était le plus la guerre ouverte.
Oui et non, sauf fin 2010, puisque quand je suis parti, le mandat qui nous a relevé, effectivement, a connu la période électorale, puisque en Côte d'Ivoire, les périodes électorales sont parfois un petit peu tendues, et c'est un euphémisme, mais effectivement, le mandat sur lequel j'étais était un mandat pour lequel, effectivement, l'intensité tactique, si on peut dire ainsi, était effectivement réduite.
Donc qu'est-ce qu'on fait dans un état-major au sein d'une force, disons, d'aide et de coopération, enfin aussi d'aide au maintien de l'ordre et au maintien de la paix? Mais c'est-à-dire, c'est quoi les missions d'un état-major dans ce genre de contexte?
Déjà, l'armée française, quand elle est déployée en Côte d'Ivoire, elle répond à un mandat de l'ONU. Donc l'état-major répond et adresse, ce mandat. Et donc, pour ma part, j'avais le poste d'officier traitant des actions civilo-militaires. Sans faire des grandes tirades sur il faut gagner les cœurs, mais l'objectif était aussi que la force Licorne, possédant des moyens que certaines communes de Côte d'Ivoire ne possédaient pas, nous répondions, quand c'était possible bien évidemment, favorablement aux demandes des différents districts qui avaient pu émettre des besoins en termes sanitaires ou éducatifs pour pouvoir les aider.
Ouais, c'est un peu de l'aide au développement, quoi.
C'est de l'aide au développement, entre autres, voilà. Alors,
simplement, c'est à ça que... Parce qu'on a dit qu'il y avait la préparation pour le départ, etc. C'est à ça que vous vous étiez entraîné, que vous étiez préparé, ou est-ce que c'était un peu une... pas une découverte, mais disons une adaptation sur le terrain, de bon, bah, c'est ça l'émission, c'est ça qu'on fait.
Alors, en fait, j'avais la double casquette. J'étais à la fois traitant au PC, au PCIAT, donc c'est au PC Interarmées de Théâtre, qui gère les différentes unités qui sont rattachées à l'état-major de qui était stationné en Côte d'Ivoire. Et j'avais aussi la deuxième casquette qui était d'officier ACM. Donc je faisais à la fois une activité de traitant.
Donc ACM, action civile militaire.
ACM, action civile militaire. Je faisais à la fois des...
Effectivement, vous utilisez des acronymes exactement comme un soldat d'actif.
Voilà.
Tout pareil.
Tout pareil. Et donc j'avais mon activité d'officier d'état-major, mais j'avais aussi cette casquette d'officier traitant des actions civilo-militaires et en fonction des besoins. Donc je m'étais pas nécessairement préparé à adresser le poste ACM, donc action civilo-militaire, mais plutôt le poste d'officier traitant en état-major projeté. Et donc, je dirais, j'ai eu la joie, le plaisir, je sais pas, que mon prédécesseur parte avant moi. Et donc, ce fameux tuilage qui se fait parfois, s'est fait au travers de mon adjoint qui était parti quelques semaines avant.
Donc, tuilage, on va rappeler, c'est simplement le fait qu'on se succède pas, on se croise pas. Il y a un moment où on cohabite pour assurer une passation, une prise de fonction efficace et sans bavure.
C'est exactement ça. Et donc, mon adjoint a eu la joie de pouvoir faire le tuilage avec son homologue, mais en même temps avec son ancien chef, on va dire, pour que son chef puisse effectivement assurer la mission. Donc là, ce tuilage a été, j'irais plus que bref, puisqu'il n'y en a pas eu, mais par le biais des différentes activités, des comptes rendus qui avaient été menés sur le mandat précédent, j'ai pu appréhender les actions à réaliser, les missions à traiter. Voilà, il y avait des exigences aussi du commandement qui avait les siennes et qui avait pu me les formaliser, et une sorte de grille de lecture des actions en disant voilà ce que j'attends, l'effet à atteindre, comme on dit souvent, en termes d'action civilo-militaire.
Alors c'était quoi les effets à atteindre là, du coup ?
Alors les effets à atteindre, c'était dans le quart sud-ouest, puisque Abidjan, voilà, la Côte d'Ivoire était un pays quand même assez étendu, et au regard des moyens que nous avions, parce que certes, je vous ai dit que la fin de l'année avait été peut-être un petit peu plus chaude en termes d'activité, en revanche, effectivement, les mandats précédents, et on était sur un volume en termes de moyens et humains qui était relativement réduit, et donc les actions civilo-militaires avaient le quart sud-est de la Côte d'Ivoire à adresser. Donc c'était principalement des grandes actions au profit principalement de la population sur deux grands axes qui étaient soit le médical, soit la scolarité au profit des enfants. Mais c'était toujours au profit des populations.
Ok, mais alors du coup, ça ressemblait à quoi pas une journée, mais c'est toujours difficile de demander.
Si, on peut le dire, on peut le traduire au travers d'une journée. C'était analyser les besoins qui avaient été formulés, soit par les communes, les dispensaires ou les écoles, et de les trier, de les classer, et ensuite de voir dans quelle mesure, en regard des demandes qui étaient faites et des moyens que l'on avait, si on pouvait y répondre favorablement.
Et ça veut dire que vous donniez pas des cours de maths, quoi. C'est...
Ah, non,
ou si...
non. J'aurais pu, hein, mais...
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, par exemple, quand on parle de besoins scolaires, l'adéquation entre ce qu'une armée, en plus étrangère, est capable de fournir et ce que sont les besoins locaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ajuste les deux, quoi?
En fait, j'irais de manière très prosaïque, le maire de telle commune ou le directeur de l'école dit « voilà, moi j'ai aujourd'hui une école qui est dont les moyens sont peut-être un peu réduits ou qui est un petit peu délabré, dans quelle mesure vous savez m'aider à me fournir du matériel, et on regarde dans quelle mesure, certes on ne vient pas avec des tables ou des manuels scolaires, mais dans quelle mesure on sait faire travailler des artisans locaux pour aider à réaménager des salles d'école d'une part, mais on a aussi des bras quand les sections partent en opération de présence, ce qu'on appelle les opérations de présence de moyenne durée, les OPMD. Et lorsque nos sections partaient sur ces opérations de courte durée, d'aider et d'avoir un groupe qui permette de peindre ou de repeindre tel ou tel dispensaire ou telle classe pour aider la population.
Et ça se passait bien. Enfin, j'imagine que ça se passait bien, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ces besoins-là, qui sont des besoins sociaux, qui sont généralement la prérogative de l'État, soient assurés dans une certaine mesure, en tout cas dans certains endroits, par une armée étrangère, en plus l'armée de la puissance qui, historiquement, avait colonisé la Côte d'Ivoire, sous mandat des Nations Unies. Enfin, je veux dire, s'il y a un truc un peu... Enfin, je sais pas, j'y étais pas, mais il y a un truc qui, spontanément et vu de loin, oui, est quand même pas évident à accepter. Quoi.
Qui est même très mal. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y avait, vous avez raison de souligner la chose, c'est que c'était fait systématiquement avec des militaires ivoiriens ou des gendarmes ivoiriens. Donc, on était en relation avec l'état-major des armées ivoiriennes et nous présentions nos projets. En disant voilà, on a une opération de présence dans tel village et voilà le projet qui a été retenu. Est-ce que vous savez mettre à disposition avec nos forces une section ou un groupe pour venir avec nous sur telle ou telle zone? Et effectivement, l'armée.
Il fallait qu'ils fassent l'interface quand même, il fallait que ça vienne un peu des forces.
C'est ça, exactement. Il y avait une première validation du command force, donc du commandant de la force, de l'opération de présence, et ensuite elle était présentée à l'armée ivoirienne qui désignait nos homologues, et c'était toujours un binôme, une section de l'opération Licorne et une section ivoirienne qui était déployée, projetée, c'est pas le bon terme, mais qui était en opération de présence sur tel ou tel village ou dans tel ou tel canton. Et donc l'objectif, c'était effectivement d'avoir cette proximité avec les populations, à la fois des troupes françaises et des troupes ivoiriennes.
Et ça se passait bien ?
Ça se passait très très bien.
Non, mais là où est la question aussi, c'est que on sait que la présence française en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été hyper bien acceptée, notamment quand on se replace dans un contexte plus ancien, celui de 2004. Y compris les relations entre l'armée française et l'armée ivoirienne n'ont pas toujours été excellentes sur le long terme. Donc, très concrètement, j'imagine bien qu'on n'était plus dans la même phase, il n'y a pas de souci. Mais...
Je vais vous faire un parallèle, c'est comme entre Paris et la province, avec tout le respect que j'ai pour Paris, tout le respect que j'ai pour la province, c'est à peu près pareil. Il y a la vie et ce qu'on voit à Abidjan, et il y a la vie de ce qu'on voit gérer dans les provinces ivoiriennes, et c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu parfois effectivement des éléments qui ont fait que gérer l'opération a peut-être parfois été mal... vu, vécu, mais on était, comme vous le disiez au début du podcast, c'était une période, d'apaisement, nous étions là pour répondre à un besoin émis par la population. Donc, de facto, il y avait un accueil qui était toujours positif. Il y avait aucune, rancœur, amertume ou élément avec une connotation péjorative. Et le fait d'arriver aussi avec les forces ivoiriennes et les forces françaises faisait que ce melting pot, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais cette fusion commune des forces faisait qu'il y avait toujours systématiquement une appréhension très positive de l'intervention. Ce n'est pas une intervention, mais de l'opération en tant que telle ou de l'exercice en tant que telle, oui.
Et ça a duré combien de temps ? Vous êtes resté combien de temps là-bas ?
Alors, je suis resté 4 mois, parce que les mandats, généralement, étaient de 4 mois. Et donc, j'y suis resté de juin à octobre 2010.
C'est tout bête, mais en revenant, je veux dire, votre employeur, il était content de vous voir revenir au bout d'un moment. Enfin, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais j'imagine bien que c'est prévu et j'imagine bien que c'est planifié. Mais
comment est-ce que ça se passe, cette intrication? Enfin, je veux dire, il y a un employeur qui est derrière. Vous avez quand même pas été là pendant 4 mois, ce qui est pas tout à fait ordinaire. Comment ça se passe au retour?
J'allais dire mon employeur et mon épouse, parce que aussi une épouse civile, entre guillemets, je dis pas que l'épouse militaire a aussi, embrassé la carrière de son mari. En l'occurrence, la mienne ne l'avait peut-être pas nécessairement. Et tout le monde était content que je revienne. Mon employeur aussi. Bon, il m'a dit, j'irai amicalement avec un sourire, mais bon, même si il y a rarement de l'amitié dans le milieu professionnel. Bon, une fois, mais pas deux. Et mon épouse aussi. Donc, je pense que tout le monde était content que je revienne. Il est vrai que j'ai eu la chance, et c'est le terme qu'il faut employer, j'ai eu la chance que cette projection se passe bien pour ma part, et que effectivement, c'était une période de 4 mois, j'irais pas que c'est... Un congé maternité, ce genre de choses, se fait aussi. C'est sur des périodes qui sont, je dis pas, entre guillemets, similaires. Donc, quand c'est planifié, et c'est comme souvent je dis, quand c'est planifié, c'est préparé. Voilà, c'était tout le monde était acquis au fait que, bah voilà, en octobre, ça se terminerait, je reviendrai, et voilà.
Et là, votre régiment donc a été dissous, donc la première brigade mécanisée. Vous êtes toujours réserviste,
oui.
Dans un autre régiment.
Alors, on va pas dans un autre état-major.
Dans un autre état-major, mais on va pas préciser. Mais vous avez envie de repartir? Enfin, quand on disait la seconde une fois, mais pas deux. Vous voudriez repartir ou simplement votre engagement au quotidien? Enfin, ce qu'on disait, une vingtaine, trentaine de jours par an, ça vous suffit, enfin, l'un ou l'autre?
Bah oui, effectivement, j'ai adoré cette projection, j'ai trouvé ça très enrichissant. Maintenant, le vouloir, c'est une chose, le pouvoir en est une autre, puisque effectivement, il faut toujours avoir l'opportunité, et il faut toujours que de manier entre l'employeur civil et l'employeur militaire, les adéquations, et que ça tombe, au moment le plus opportun. Je sais pas s'il y a des bons moments pour être projeté en tant que civil, mais voilà, c'est cette planification qui font que, là, en ce moment, l'état-major dans lequel je suis n'est pas nécessairement projeté de manière régulière, donc c'est un petit peu plus difficile, et les postes montant en grade, bah, comme bien souvent, hein, montant en grade, les opportunités, les postes se réduisant aussi, hein, c'est un peu la pyramide, donc les opportunités se réduisent, pardon. Mais oui, la volonté reste là, elle est liée à mon engagement, et la volonté reste là, oui. Maintenant, je ne sais pas de quoi ça sera fait l'avenir, mais oui, j'aimerais bien, effectivement. Mais faut aligner que les planètes s'alignent, et elles ne s'alignent pas nécessairement régulièrement.
Merci beaucoup, commandant Laurent.
Merci Alexandre.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.